Amitié, famille, comment la jalousie abîme-t-elle les relations et comment s'en défaire?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Ce dimanche sur RFI, Religion du Monde avec Véronique Guémard.
Nous partons à Lourdes, dans le sud-ouest de la France, où se déroulent des pèlerinages consacrés à la Vierge Marie, qui serait apparue 18 fois à Bernadette Soubirous en 1858 à la grotte de Massabielle. Quête intérieure, demande d'intercession et de guérison, reportage au cœur du sanctuaire de Lourdes.
Religion du Monde avec Véronique Guémard, tous les dimanches à partir de 10h10 TU sur RFI.
Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Paul Lonsin-Spinelli à la une. Le Premier ministre guinéen tend la main à la Sierra Leone.
Oui, dans un discours hier, Amadou Ouriba a estimé que les deux pays amis devaient emprunter la voie diplomatique pour dépasser leur brouille récente. La semaine dernière, les deux voisins se sont accusés réciproquement d'être entrés sur leur territoire respectif, ce qui avait conduit à l'interpellation de 16 membres des forces de l'ordre Sierra Leone par des soldats guinéens. C'est un coup dur pour les défenseurs de l'environnement. En Tunisie, la justice a rejeté hier la demande de suspension en urgence d'une usine de production d'engrais de Gabès, accusée de rejeter des déchets polluants depuis des décennies. Au Togo, le procès en appel sur la mort du colonel Bitala Madjoulba arrive à son terme. Le délibéré est attendu aujourd'hui. Des peines allant jusqu'à 50 ans de prison ont été demandées par le procureur général. Et puis, il jongle entre plusieurs casquettes, et ce avec talent. Le Béninois Yewé Yéton est nominé parmi les finalistes du prix Découverte RFI 2020. Son portrait est à suivre en fin de journal. Après la poussée de fièvre de la semaine dernière, la Guinée et la Sierra Leone jouent l'apaisement. Mardi dernier, les deux voisins s'étaient en effet mutuellement accusés d'incursion sur leurs territoires respectifs. Cela avait entraîné l'arrestation de 16 soldats et policiers sierra léonais par des militaires guinéens. Aujourd'hui, les deux parties semblent plutôt privilégier un règlement par la voie de la diplomatie. Hier, le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a indiqué que la Guinée et la Sierra Leone n'entreront jamais en conflit compte tenu de leur proximité historique.
Sur instruction du président de la République, nous nous acheminons vers une gestion diplomatique de cette question. Et nous allons encore réitérer à nos voisins, qui sont nos frères, avec qui nous partageons tous les bonheurs comme les malheurs. Et aussi, il faut rappeler que la Sierra Leone a toujours été, à travers le président Madabibo, à travers le vice-président Guldes, le premier ministre, toujours à côté de la Guinée lorsque la Guinée a traversé des périodes critiques, notamment l'explosion du dépôt. Nous avons traversé ensemble des tragédies collectives, la propagation de la fièvre hémorragique Ebola. Nos destins sont liés et nous dirons et nous réitérons à nos voisins, tous nos voisins, que la Guinée est un pays de paix et les actions diplomatiques seront toujours mises en avant pour régler tous les problèmes. Il n'y a pas de raison que des soldats soient envoyés jusqu'à empiéter le territoire national pour sous prétexte de manifester concrètement une souveraineté quelconque.
Les propos d'Amadou Ouriba recueillis par notre correspondant Mouktar Ba. Pour ne pas empiéter sur le ramadan et après des critiques au sein de la population musulmane, la commission électorale nigériane a décidé de déplacer la date de la prochaine présidentielle. Elle se déroulera donc le 16 janvier 2027 et non le 20 février comme prévu initialement. Le président sortant élu en 2023, Bola Tinubu, est soutenu par son parti pour briguer un second mandat. Les candidats des différents de formation seront désignés lors de primaires au printemps prochain. Malgré des plaintes pour des dégâts sur l'environnement et sur la santé, un groupe chimique remporte une victoire judiciaire en Tunisie. La justice tunisienne a rejeté hier une plainte en référé demandant l'arrêt temporaire de la production de l'usine d'engrais à base de phosphate située à Gabès, c'est dans le sud du pays. Les plaignants demandaient une suspension en urgence de la source de pollution avant une décision finale de la justice concernant une éventuelle fermeture totale du complexe. Jeanne Richard, les plaignants annoncent faire appel et poursuivre leur combat.
Cela fait des décennies que Gabès subit la pollution du groupe chimique tunisien et de son usine d'engrais phosphatés qui rejette ses résidus gazeux et solides en pleine nature, dénonce Reddine Debaya, membre du collectif Stop Pollution.
Ils rejettent chaque jour dans la mer des quantités énormes de déchets toxiques, de phosphogypse, de déchets de phosphate, qui contiennent des métaux lourds, l'arsenic, le cadmium. Et le plus important, le groupe chimique a un impact sur la santé de la population. Il y a beaucoup de cas de cancer. On trouve aussi des problèmes respiratoires dans tous les quartiers, dans les alentours.
Après plusieurs cas d'intoxication l'année dernière, des milliers de personnes avaient manifesté leur colère dans la rue. Le président tunisien, Kais Saied, avait lui-même reconnu, je cite, « un assassinat écologique ». Pourtant, la justice estime qu'il n'y a pas eu de préjudice, que les allégations de pollution étaient non fondées et manquaient de preuves techniques et scientifiques.
On était surpris par cette annonce. Il y a une colère collective à Gebs après cette décision. Et dans tous les cas, on va continuer notre lutte. La seule demande, c'est le démantèlement des unités polluantes de groupe chimique tunisien.
Les mines de phosphate qui servent à faire des engrais sont l'une des principales richesses naturelles du pays et un pilier de l'économie tunisienne.
Jeanne Richard, au Togo, le délibéré est attendu aujourd'hui lors du procès en appel sur la mort du colonel Bitala Madjoulba. Ce haut gradé avait été tué par balle dans son bureau du camp militaire de Lomé et ce quelques heures seulement après la cérémonie d'investiture de Faure Gnassingbé. C'était en mai 2020. 7 personnes comparaissent de nouveau devant la justice, Félix Abalo Kadanga, chef d'état-major au moment des faits. Mercredi, le procureur général avait requis des peines allant jusqu'à 50 ans d'emprisonnement pour assassinat et complot contre la sécurité intérieure notamment. Selon la défense, en revanche, Lisa Fabian, il n'existe aucune preuve concrète.
Dans leur plaidoirie, les avocats ont voulu montrer que le dossier est vide et que l'auteur des faits n'existe pas. La victime, le colonel Bitala Madjoulba, a été retrouvée au petit matin dans son bureau, tuée d'une balle dans le cou, tirée à bout portant. 113 militaires étaient en disponibilité opérationnelle ce soir-là, mais personne n'a rien vu ou entendu, à l'exception d'une soldate en faction à la soute à essence, située à environ 400 mètres du poste de commandement. Elle affirme avoir entendu une détonation qu'elle a assimilé à l'éclatement d'un pneu. La défense a rappelé ce mercredi que tous les téléphones des militaires présents dans le camp dans la nuit du drame ont été fouillés, sans qu'aucun élément ne permette d'établir un lien clair avec Félix Abalo Kadanga, qui risque aujourd'hui 50 ans de prison. Pour qu'il y ait complicité, il faut une entente préalable, a relevé son conseil, qui a voulu montrer dans sa plaidoirie qu'il n'y a aucun indice dans ce sens. Pour la défense, la situation est claire. Sans auteur connu à ce crime, sans preuve d'une entrave à la justice et sans indice de complot, les avocats demandent la relaxe des accusés et la poursuite de l'enquête.
Lisa Fabian, il y a 50 ans, jour pour jour, naissait une république et aussi un conflit sans fin. La République arabe sahraoui démocratique a en effet été proclamée à Bir Lehlou, localité du nord-est du Sahara occidental, ce 27 février 1976. Et ce alors que le Maroc revendiquait déjà sa souveraineté sur ce territoire que l'Espagne venait de quitter. Le Sahara occidental est aujourd'hui toujours contrôlé à 80%. Par Rabat, mais hier, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement sahraoui, Mohamed Yeslem Beissat, est revenu sur 5 décennies de lutte et a réaffirmé aussi la poursuite du combat pour la liberté et le droit à l'autodétermination, Ouda Ibrahim.
Depuis sa création, la République sahraoui a mené des combats militaires, diplomatiques et juridiques visant à recouvrer la souveraineté sur un territoire considéré par le Maroc comme une région du pays. Les cycles d'affrontements, de cessez-le-feu et d'impasses diplomatiques 50 ans durant n'ont pas fait plier les Sahraouis. Ils réclament toujours leur droit à l'autodétermination en dépit des changements géostratégiques. Pour les Nations Unies, le Sahara occidental demeure un territoire non autonome en attente de décolonisation. Les résolutions du Conseil de sécurité garantissent au peuple sahraoui un droit à l'autodétermination. Depuis 2020, Rabat enregistre cependant des points dans ce conflit avec la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Plusieurs pays européens, dont la France, considèrent désormais que le plan marocain pour l'autonomie du Sahara occidental est la solution la plus réaliste pour ce conflit. Ces efforts se heurtent cependant au mur de l'imbroglio juridique et du respect des règles de droit international. Le Front Polisario, interlocuteur principal aux négociations, rappelle que rien ne se fera sans le consentement du peuple sahraoui.
Houda Ibrahim. C'est un petit bijou qui se place très haut dans l'histoire du 7e art malgache, le tout premier long métrage du réalisateur malgache Franco Clerc, connu pour ses films courts et disponible désormais Manjakzai Douri en français à tout jamais. Est une adaptation de la pièce de théâtre éponyme, une histoire d'amour qui s'étale sur plus d'un siècle et qui met à l'honneur le phrasé poétique et imagé du parler malgache d'antan, Sarah Teto.
En 1869, Railou, un jeune paysan, s'éprend totalement de Lal, une jeune aristocrate des hautes terres. De par leur rang différent, la jeune femme lui est inaccessible, mais qu'importe, il fera tout pour la conquérir.
Ce sentier est bien chanceux de vous voir passer matin et soir. C'est sans doute pourquoi les fleurs y poussent tout le long.
Ce cher Railou qui ne sait discerner un amour non partagé, mais qui insiste. Quels sont vos boniments aujourd'hui?
Railou invoque alors Ar, une divinité malgache ancestrale qui va l'aider à forcer le destin et provoquer son immortalité. Pour le réalisateur et producteur Franco Clerc, Manjakzai Douri est un vieux rêve qui se concrétise.
Depuis toujours, je veux remettre au goût du jour la mythologie malgache. Ari, elle fait partie de cette mythologie-là qui a été un peu oubliée après l'arrivée du christianisme, et c'est pas anodin que le film commence en 1869. Ça coïncide avec une période très précise où la reine de l'époque s'est convertie au christianisme et a abandonné tous les fétiches et toutes les croyances traditionnelles malgaches.
Un film plein de poésie, à l'esthétique léchée et un jeu d'acteurs d'une justesse incroyable. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Ces joutes oratoires qui font la beauté de ce film, on les doit à Roland Raman, qui est l'un des co-auteurs de la pièce. À l'écran, il est aussi le comédien qui interprète le rôle du jeune Railou. Il raconte ce texte si particulier au micro de Sarah Teto.
Cette écriture, on l'a voulu particulièrement que ça soit poétique, musical. Pour ça, nous avons utilisé beaucoup des proverbes de poésie malgache qu'on appelle Tunkal. Le but, c'est de montrer la beauté du langage malgache. Les joutes verbales viennent surtout de notre tradition orale. C'est un héritage presque oublié à cause de la colonisation, à cause de l'influence de la culture française. Il y a aussi la culture anglophone. Et c'était vraiment quelque chose qu'on voulait ressusciter et rappeler aux spectateurs qu'il fut un temps, il y a plus d'un siècle, on s'exprimait comme ça. Personnellement, je suis très heureux du résultat parce que le film reste fidèle à notre vision tout en touchant un public beaucoup plus large avec l'adaptation cinématographique, plus que le théâtre.
Roland Raman au micro de Sarah Teto qui signait le dossier de ce journal. C'est peu dire que c'est un musicien polyvalent, le béninois. Yewé Yéton est à la fois percussionniste, chanteur ou encore rappeur. L'artiste de 36 ans fait partie des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2026. Fils et petit-fils de chanteurs traditionnels, il a été bercé dans son enfance par les rythmes du Bénin et leur rend aujourd'hui hommage dans tous ses morceaux, Lisa Giroldini.
Quand il était enfant, Yewé Yéton accompagnait son grand-père à la pêche sur le fleuve Ouémé. Son grand-père chantait, lui jouait déjà des percussions avec tout ce qu'il trouvait dans la barque. Aujourd'hui devenu artiste, il fusionne les rythmes endogènes béninois avec des mélodies sacrées vaudoune, du rock et du rap pour développer son style, le vaudoune rock. Derrière chaque morceau, absolument rien n'est laissé au hasard. On retrouve des rythmes Akpala, Juju, Sakpata ou encore Tchinkoumin en écho à des cérémonies ou à des divinités. Et par-dessus ces rythmes, Yewé Yéton rappe en fond la langue qu'il maîtrise le mieux, sa langue du cœur. Avec ses textes engagés, Yewé Yéton raconte les réalités des Béninois et célèbre les valeurs de courage, d'amour et de résilience pour, il l'espère, inspirer toute la jeunesse africaine.
Yewé Yéton, l'un des 10 finalistes donc du prix Découverte RFI 2026. Toutes les infos sur les candidats sont à retrouver sur RFI Musique, où vous pouvez également voter pour votre artiste favori jusqu'au 11 mars prochain. Le résultat sera annoncé le 13.
C'était le journal de Paul Lonsin-Spinelli. RFI 7h44 à Paris, 6h44 en temps universel. La revue de presse africaine, bonjour Catherine Potet.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, deux charniers découverts à Uvira dans l'est de la RDC.
Plus de 160 corps identifiés dans des fosses communes à Uvira, titre afrique.com. Le site d'information panafricain précise que ces sépultures clandestines auraient été creusées durant l'occupation de la ville par les rebelles de la FCM-23. Rebelles qui se sont retirés il y a un mois, laissant les autorités congolaises et les habitants face à l'horreur. Ajoute Afrique.com, les témoignages décrivent des scènes d'une barbarie extrême où les corps étaient entassés dans des véhicules avant d'être jetés sans ménagement dans des tranchées. Il y aurait deux fosses communes majeures. La première dans le quartier Kavimvira contiendrait 132 corps, tandis qu'une seconde à Kilomoni, près de la frontière burundaise, en refermerait 31. Reste à identifier ces corps, défi majeur pour les familles et les organisations de défense des droits humains. Selon Afrique.com, une grande partie des défunts seraient de jeunes garçons. Durant l'occupation, l'AFC-M23 les aurait suspectés d'appartenir aux Wazalendo, ces groupes de défense locale soutenant l'armée régulière congolaise. Des accusations que le mouvement rebelle rejette en bloc, précise encore Afrique.com. On se dirigerait vers une enquête internationale indépendante.
Dans la presse africaine, également une étude sur les récentes pluies dévastatrices au Maroc et en Espagne.
C'est APA News qui a lu pour nous cette enquête menée par World Weather Attribution, étude selon laquelle les journées les plus pluvieuses de la région sont désormais autour de 30% plus humides qu'à l'époque pré-industrielle, lorsque la température était plus basse d'1,3 degré. L'agence de presse africaine rappelle l'intensité des intempéries survenues entre la mi-janvier et la mi-mars. 9 tempêtes ont entraîné des pluies torrentielles et des vents violents sur le Maroc, mais aussi l'Espagne et le Portugal, contraignant plus de 200 000 personnes à évacuer leur domicile. APA News a interrogé Frédéric Otto de l'Imperial College de Londres, selon laquelle c'est exactement à cela que ressemble le changement climatique. Des régimes météorologiques qui étaient autrefois gérables se transforment en catastrophes beaucoup plus dangereuses.
La finale chaotique de la CAN le 18 janvier entre le Maroc et le Sénégal n'en finit pas de susciter des commentaires.
Et AfriqueFoot.com s'en fait l'écho. Remonté contre la décision jugée injuste de la CAF, le Maroc prépare sa contre-attaque. La Fédération royale marocaine de football dévoile un peu plus les contours de cette contre-attaque en riposte aux sanctions du jury disciplinaire de la CAF, la Confédération africaine de football. Pour mémoire, plusieurs joueurs ont été suspendus et le Maroc a été sanctionné pour le comportement antisportif de ses joueurs. Une réunion spéciale de la Fédération marocaine consacrée à la CAN aura lieu dans les prochains jours, annonce AfriqueFoot.com. Compte tenu des décisions injustes rendues par la commission de discipline de la CAF à l'encontre de l'équipe nationale marocaine et insistant sur la poursuite du suivi de cette affaire par voie et procédure légale afin de protéger les fondements et les règlements du football.
Ailleurs, sur le continent, Catherine, les débats interminables autour de la finale de la CAN commencent à lasser certains commentateurs.
C'est le cas au Burkina Faso où Ouakad Serra pose la question: Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et si le roi sifflait la fin de la partie. C'est une finale qui ne finit pas de tirer en longueur, estime le journal burkinabé, qui revient lui sur les peines de prison dont ont écopé 18 supporters sénégalais. Ils ont présenté leurs excuses au peuple marocain et ses dirigeants pour s'être laissé emporter par le sentiment d'injustice suite à deux décisions arbitrales arbitraire et surtout par la passion du football, poursuit Ouakad Serra, aux yeux duquel il ne reste désormais que la magnanimité du roi Mohamed VI comme seule bouée de sauvetage pour ceux que leurs compatriotes considèrent désormais comme les otages de Rabat.
Catherine Potet, vous revenez dans une demi-heure pour la revue de presse internationale RFI, 6h48 en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
Le Pakistan déclare la guerre à l'Afghanistan, annonce explicite tout à l'heure du ministre pakistanais de la Défense. Islamabad a lancé une série de bombardements sur plusieurs grandes villes afghanes alors que des affrontements meurtriers opposaient déjà les deux pays le jour précédent. Un porte-parole des talibans au pouvoir confirme que de nombreuses zones ont été frappées ces dernières heures. Les pourparlers s'achèvent, de nouveau s'annoncent déjà. Les discussions indirectes entre l'Iran et les États-Unis en Suisse ont permis de très bons progrès, selon la délégation de Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères explique que les sujets du nucléaire et celui des sanctions économiques ont pu être mis sur la table et qu'un nouveau cycle de négociations pourrait se tenir dès la semaine prochaine. Il y a une semaine, le président Trump fixait un ultimatum de 10 à 15 jours pour voir si un accord était possible avec l'Iran avant de recourir à la force. À Gaza, de nouvelles frappes israéliennes font au moins 5 morts, annonce ce matin de la défense civile de l'enclave. Et alors qu'une trentaine d'ONG sont contraintes de quitter Gaza dès ce week-end, une décision du gouvernement israélien qui leur reproche de ne pas vouloir révéler l'identité de son personnel palestinien. La course à la tête de l'OIF se précise. La RDC a fait connaître hier le nom de sa candidate pour le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit de Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba. Elle a été ministre de l'Agriculture entre 1997 et 2001. Cette candidature arrive dans un contexte de vives tensions diplomatiques avec le Rwanda, puisque l'actuelle secrétaire générale de l'OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, est elle aussi postulante pour 4 ans supplémentaires après déjà 2 mandats. Cette élection pour la tête de l'OIF aura lieu en novembre. Les chefs d'état-major des pays membres de la CDAO terminent leur sommet aujourd'hui à Freetown. Ils ont planché sur le devenir de la force en attente, dont l'un des objectifs est de lutter contre le terrorisme dans la sous-région. La lutte contre le terrorisme qui se fait aussi sur Internet. Le recrutement de combattants se fait en partie en ligne, tout comme une bonne partie des activités criminelles. Alors comment les États africains se préparent à cette lutte numérique? Notre grand invité Afrique ce matin est l'Ivoirien Franck Kié, expert en cybersécurité et commissaire général du Salon Cyber Africa Forum. Il répond aux questions de Sidi Ansané.
Bonjour Franck Kié.
Bonjour.
Alors récemment, le chef du bureau de cyberdéfense des forces armées de votre pays, la Côte d'Ivoire, affirmait que, je le cite, les terroristes sont omniprésents sur le web. Alors vous qui êtes à la tête du Cyber Africa Forum depuis bientôt 10 ans, vous diriez que enfin les États prennent conscience de ce phénomène ?
Les États africains en particulier depuis quelques années se rendent compte de l'importance du phénomène qu'est la cybercriminalité et tous les risques, on va dire, liés à la cybersécurité de façon générale. Néanmoins, certains exemples encore assez très récents nous démontrent qu'il y a encore une marge de manœuvre assez importante en termes de mise en œuvre d'action pour pouvoir être pleinement efficace et opérationnel sur ce volet-là. Même si aujourd'hui, on a de plus en plus d'informations et de plus en plus de sensibilisation, les acteurs publics et privés tendent encore à penser, surtout en Afrique, que cette menace est encore assez éloignée d'eux. Au-delà de ça, il faut aussi continuer dans la formation du capital humain et puis surtout investir dans les infrastructures qui nous permettront de nous défendre. Je pense qu'au cours des dernières années, là où l'Afrique a quand même fait un bond qualitatif assez important est sur le volet de la gouvernance, avec la mise en place dans plusieurs pays africains d'agences nationales de la sécurité des systèmes d'information, d'agences de protection des données à caractère personnel et puis de la régulation aussi qui va avec des lois de lutte contre la cybercriminalité. Et pour la cybersécurité, il faut maintenant aller encore un peu plus loin sur les autres volets cités précédemment.
Quelle est votre analyse plus poussée sur l'état actuel de la lutte contre le terrorisme en ligne dans la sous-région ?
Le biais numérique devient aujourd'hui aussi un vecteur pour ces acteurs-là dans les crimes et dans leurs actions malveillantes qu'ils mènent. Donc il faut accroître encore plus la surveillance. On peut voir qu'à travers la propagation des fake news, il y a un vrai aspect de lutte informationnelle sur le volet numérique. Et puis en plus de ça, avec l'émergence et la démocratisation de l'intelligence artificielle, on a un risque encore plus accru parce que ça donne encore plus de moyens justement à ces personnes-là de pouvoir arriver à leur fin.
Il y a aussi une filière qui, on le sait, est difficile à surveiller, celle de l'argent mobile. Les Africains sont champions mondiaux de l'emploi d'argent numérique. Plus de la moitié des comptes dans le monde sont en Afrique. En 2024, les régions Ouest et Est pesaient à elles seules près de 1000 milliards de dollars de transactions d'après la GSM Association. Comment le préserver, ce service, tout en repérant les transactions criminelles et les transactions terroristes.
Je pense qu'aujourd'hui, les États, en accord avec les régulateurs et les opérateurs de télécommunications qui opèrent en général ce type de solution, essaient de mettre en place de plus en plus de mesures qu'on appelle de KYC, donc de Know Your Customer, qui permettent en fait de savoir qui est derrière le compte et donc d'avoir une certaine traçabilité derrière ces échanges-là. Donc c'est là où justement aussi il ne faut pas que des jeunes se fassent instrumentaliser pour pouvoir donner leur identité afin que des personnes mal intentionnées puissent faire des transferts d'argent à travers leur compte.
Alors on sait que ces recrutements se passent aussi beaucoup par les réseaux sociaux. Comment se passe la coopération entre les États et les plateformes, les sociétés, notamment les GAFAM, hein, pour lutter contre le terrorisme en ligne ?
La relation n'est pas forcément toujours évidente parce que ces GAFAM aujourd'hui sont tellement puissants qu'ils peuvent décider de ne pas forcément répondre à un État ouest-africain dont le PIB est inférieur à leur valorisation boursière. D'où la nécessité également de coopération qui permettrait ensemble d'être un levier plus important face à ces opérateurs. Je pense aussi qu'il y a toujours la question légitime de ces plateformes de se dire à quel moment est-ce qu'on est sur du terrorisme ou de la cybercriminalité et à quel moment on est dans une phase de restriction de liberté d'expression. Et juste pour terminer, un dernier exemple, si je ne me trompe pas, c'est le président Macron lui-même qui disait qu'il y a quelques mois, il a reçu une vidéo d'un de ses homologues africains qui lui montrait une vidéo générée par l'IA d'un coup d'État en France. La présidence française a demandé à Facebook d'enlever, de retirer cette vidéo. Ils avaient une réponse négative. Je crois qu'ils n'avaient même pas répondu, ils n'avaient pas accédé à leur demande. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui, même un État comme la France, dans son rapport de force avec ces GAFAM-là, peut avoir ce type de réponse, je vous laisse imaginer pour des pays moins forts ou moins puissants économiquement, comment ça doit ne pas forcément être facile.
Merci pour vos éclairages, Franck Kier.
Merci beaucoup à vous.
Franck Kier, expert en cybersécurité et commissaire général du Salon Cyber Africa Forum, il répondait aux questions de Sidi Yansané. Vous réécoutez cet entretien dans sa version intégrale sur notre site www.rfi.fr. RFI 6h56 en temps universel. C'est l'heure de retrouver Charlotte Ntamack comme chaque vendredi sur RFI. Charlotte, vous nous parlez ce matin de ces bruits de bouche très désagréables et parfois assourdissants que nous font subir nos voisins.
Oui, nous vivons au milieu de bruits et de sons, mais plus que la musique assourdissante des bars, les klaxons bruyants des voitures et autres tapages sonores, il y a des bruits et des sons qui produisent des effets plus qu'indésirables. Les bruits émis par le monde alentour. Le type s'y doit aimer la nourriture. Comment quelqu'un peut manger comme un cochon comme ça? Le gars croque les os, tu entends le bruit à des kilomètres. Moi, il me coupe l'appétit, man. Les bruits du monde alentour peuvent vous faire passer un sale temps et même vous faire vivre la pire expérience de votre vie. Si je vous demande, par exemple, c'est quoi le pire voyage? Vous me répondriez, j'en suis certaine, que c'est celui avec le plus de secousses sur une route entravée ou beaucoup de turbulences en avion. Mais je vous dirais que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de voyager assis à côté de quelqu'un qui mange des chips en faisant croche-croche durant des heures dans vos oreilles. Ou imaginez-vous l'horreur d'un voyage à côté d'un qui ronfle dans le creux de votre oreille durant tout le trajet, alors que vous avez oublié vos boules-quièces et que vos écouteurs décident de tomber en panne. Vous avez seulement envie de le réveiller pour lui dire « Mon frère, on a payé le billet au même prix, mais est-ce une raison pour ronfler plus fort que le moteur ?» Parmi les bruits émis par le corps, il n'y a pas plus traître qu'un borborygme. « Man !» Ce n'est pas la gossie qui disait qu'elle n'a pas faim. C'est elle qui déchire maintenant le poulet comme ça. Joe, elle n'avait pas quelle faim. Là où son ventre chantait tchololola. On reconnaît beaucoup au bruit qu'ils produisent. Man, c'est quoi ce bruit? Comme si on grattait le fer sur le ciment. Joe, tu ignores quoi? C'est Casimir qui grince des dents. Sa mère ne l'a pas bien blâmé pour ça quand il était petit. Un certain bruit dans une foule peut mettre sur la piste d'une personne suspectée d'une certaine chose. C'est lui qui a fait ça. Je te dis, Mako, j'ai entendu le bruit. Mako, moi j'ai seulement senti l'odeur. Hey, un beau garçon comme ça, comment il peut faire des choses comme ça au milieu des gens? Si les bruits du monde qui nous entoure nous mettent parfois mal à l'aise, on a tendance à oublier que les bruits que nous émettons, nous aussi, peuvent déranger les autres. Chérie, pourquoi depuis un temps là, tu dors avec les bouchons d'oreille? Tu demandes à qui, hein? Continue d'aller boire comme un ivrogne toute la journée pour venir m'empêcher de dormir la nuit. Les bruits du monde alentour nous semblent désagréables, mais à quoi ressemblerait un monde sans bruit des gens qui nous entourent? À vendredi.
À vendredi, Charlotte, vous restez avec nous sur RFI. Dans un peu plus d'une minute, un nouveau journal.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le secteur automobile vit une mutation historique. L'émergence de la mobilité électrique, les questions sur la chaîne d'approvisionnement bouleversent la compétition entre les constructeurs. Nous serons au cœur de la production dans une usine européenne propriété d'un grand groupe chinois.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Écoutez ce samedi l'épopée des musiques noires.
Au fil des années, Eric Bibb s'est imposé comme conteur, penseur et brillant orateur. Avec One Mississippi, il enrichit encore cette palette d'un élan bien